おかしいおかしい、おかしい。
Bonsoir. Premier anniversaire de Joseph Kabila comme président élu de la RDC. C'est déjà un an aujourd'hui, depuis le 6 décembre 2006, date de son investiture. La situation va mieux qu'il y a un an et beaucoup mieux qu'il y a 15 ans. C'est ainsi que Joseph Kabila a résumé le bilan de la première année de son mandat comme président élu. C'était lors de son tout premier discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Quel bilan de Joseph Kabila sur le plan politique et judiciaire, sur le plan sécuritaire et puis économique et social, c'est le thème de cette émission Dialogue en Congolais. Parmi les réactions des auditeurs, Dieudonné Nkumuyeli de Mbandaka félicite Joseph Kabila pour le reste de son mandat et trouve hâtif de juger sévèrement sa première année. Le chef de l'État, dit-il, a hérité d'une situation catastrophique dans le pays, mais il doit éviter que la situation ne s'empire. Allusion faite au salaire des fonctionnaires, l'insécurité avec Laurent Kunda à l'est du pays, insécurité aussi à Mbandaka, à l'Équateur. Pour Madame Félicité Winga de Bukavu au Sud Kivu, qui reconnaît aussi la difficile situation héritée par Joseph Kabila, plaide cependant pour le partage équitable des revenus. Elle dénonce l'écart des salaires entre un ministre ou un parlementaire et un agent de l'État. Nous devons ensemble traverser le fleuve de la pauvreté en attendant que le pays soit riche. Yves de Boutembo pense, lui, que le bilan est négatif. Rien ne marche sur le plan sécuritaire et éducatif. Pour ce bilan de la première année de Joseph Kabila comme président élu, nos invités ont pour nom ce soir Christian Kambinga, chargé de l'organisation au sein de l'Alliance pour la majorité présidentielle, Jean-Claude Wemba, député national de l'opposition, membre du groupe parlementaire Ordre des démocrates républicains, François Elika, analyste politique et assistant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi, de 14h à 20h, heure de Kinshasa, au 099-899-222. Vous voulez participer à l'émission? Envoyez-vous.
Voilà, le contact est déjà connu. Premier anniversaire de Joseph Kabila comme président élu de la RDC. Un an après son entrée en fonction, quel bilan? D'abord sur le plan politique et judiciaire. Sur le plan politique, le président Joseph Kabila a salué la mise en place des exécutifs et parlements tant nationaux que provinciaux, des institutions, dit-il, dignes d'un État moderne et qui, selon lui, doivent fonctionner dans les limites de leurs compétences. Il met en garde contre le recours à une révision de la Constitution pour régler leurs dysfonctionnements. Et puis, sur le plan judiciaire, la justice, selon le président Joseph Kabila, demeure une institution à réformer en toute priorité. Je vous prie d'écouter un extrait de son discours sur l'aspect judiciaire.
À travers toutes ces réformes, l'objectif ultime est d'assurer aux magistrats des conditions de vie et de travail qui garantissent leur liberté de conscience et l'exercice de leur mission en toute indépendance. Cela suppose que leur statut soit amélioré et que leurs droits soient réaffirmés, étendus et respectés. Cela suppose aussi qu'ils assument avec responsabilité leur devoir, dont celui sublime de dire le droit sous l'unique empire de la loi. C'est à cette condition et à cette condition seulement que la justice contribue à la paix sociale. Il est temps que cesse l'ironie du sort qui veut qu'aujourd'hui dans ce pays, les criminels, parce que riches ou politiquement bien connectés, attendent plus sereinement un verdict que la victime. Il est temps que les citoyens soient rassurés que devant les juges, seuls comptent les faits et les droits, et nullement l'ethnie, la race, la nationalité, la couleur politique ou la condition sociale. Je ne peux en finir avec les réformes juridiques sans nous mettre en garde contre la tentation de vouloir régler tout dysfonctionnement éventuel des institutions par une révision constitutionnelle. En principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation.
Joseph Kabila, sur l'aspect judiciaire de sa première année de son mandat après son élection. Christian Kambinga, comme je l'ai dit, vous êtes chargé de l'organisation au sein de l'AMP. Est-ce qu'on peut dire que les institutions issues des élections, comme le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales, fonctionnent bien?
Je pense que je peux considérer que ça marche.
Un an après,
il y a un effort sérieux qui est fait au sein du gouvernement, au sein de l'Assemblée nationale, pour asseoir la démocratie. C'est un exercice difficile. Lorsque nous voyons, nous mettons un regard sur le rétroviseur, nous pouvons considérer qu'il y a une amélioration sensible, il y a une volonté réelle de tous les acteurs politiques congolais d'asseoir un nouvel ordre institutionnel, de donner à ce pays sa place, de veiller à ce qu'en fait, in fine, que nous puissions parler réellement de la renaissance du Congo et de son peuple. Un peuple qui, in fine, doit savoir qu'on a besoin de sa contribution. Sans cette volonté de ce peuple, rien ne sera possible. Et je crois que c'est l'effort que toutes les institutions sont en train de faire, aussi bien au niveau des assemblées, au sein du gouvernement. Vous réaliserez que, concernant notamment les conditions de vie de ceux qui sont chargés de mobilisation de recettes, des fonctionnaires de l'État, il y a un effort qui se fait.
On va y arriver, parce que là vous abordez l'aspect social.
Non, c'est pas ça, c'est pour montrer que la volonté de faire participer les Congolais dans le secteur du développement est le souci majeur, et du gouvernement, et de nos assemblées au niveau national.
Oui. Donc on retient pour vous qu'il y a une amélioration sensible dans le fonctionnement des institutions issues des élections.
Oui, il y a une volonté d'aller de l'avant.
Une volonté d'aller de l'avant, amélioration sensible. Jean-Claude Wemba, député national, vous êtes de l'opposition, on l'a déjà dit. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis qu'il y a cette volonté, comme le dit Christian Kambinga, qui a même parlé aussi d'une amélioration sensible?
Hélas, comme vous le savez, la volonté ne suffit pas. C'est contre des actes. Je crois que M. Kambinga vient de nous montrer à quel point l'AMP ne voit qu'à travers la volonté. Or, le Congo d'aujourd'hui en a vécu de beaux discours, de très beaux projets de société. Mais où en est le Congolais 40 ans après l'indépendance? Nulle part.
Bon, prenons d'abord un an et la prise de pouvoir.
Pour cela, j'arriverai par là. Il a raison de stigmatiser en disant que la contribution du peuple congolais doit être efficace et nécessaire pour la bonne marche de notre pays. Mais le peuple congolais ne peut que souscrire à cet acte de bonne volonté, à cet acte de réalisation, dès lors que le gouvernement montre qu'effectivement, il est en train de bien travailler. Or, qu'est-ce qui se passe?
Vous dites que la volonté ne suffit pas, ça veut dire quoi?
Je vous dirai clairement, M. Toumba Kamangi. Kamanga, pardon. Le président de la République est là depuis une année. Le gouvernement est là depuis 9 mois. Nous nous sommes retrouvés, hélas, pour le peuple congolais, 12 mois en arrière au discours d'investiture du président de la République.
Comment ça?
Tout ce que le président de la République a essayé de nous dire aujourd'hui, il nous l'a dit il y a 12 mois, à part une nouveauté sur les 5 chantiers et sur la participation éventuelle, si pas fictive, des Chinois à venir. Tout cela pour vous dire quoi? L'état de nuisibilité de la justice, le président de la République le connaît depuis une année. Dans son discours d'investiture, il a fustigé la justice en disant qu'il y avait triple justice. Des bandits criminels à col blanc, de petits peuples, les sans-grades ou bien la classe moyenne. Aujourd'hui, le président de la République nous revient. Mais moi, je dirais tout simplement, le président de la République a loupé une chance extraordinaire de lancer l'appel à la réconciliation nationale. Parce que sans réconciliation nationale, nous aurons du mal à faire évoluer ce pays.
Est-ce que là vous parlez des relations entre la majorité et l'opposition ?
J'y arriverai.
Le
président de la République, effectivement, il y a le sénateur Jean-Pierre Mbemba qui a recueilli plus de 5 millions de voix, qui est l'icône de l'opposition institutionnelle actuelle, parce que, pour dire la vérité, il y a deux leaders dans ce pays de l'opposition. Il y a Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui est un leader, le président de l'UDPS, qui, ça saute aux yeux. Au niveau des parlementaires, il y a quand même Jean-Pierre Mbemba qui représente un courant assez important. Or, le président de la République nous renvoie toujours à la justice.
Oui.
Cette même justice que le président de la République a fustigée aujourd'hui.
Oui.
Et puis, secondo, au niveau de l'éducation,
oui,
au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, le président a été, je pourrais dire, dicté de toutes ces histoires. C'est pour cela que nous disons tout clairement,
oui,
quand nous avons vu ce que nous avons à voir,
et pour conclure, oui,
pour conclure, oui, je dirais que, hélas pour le peuple congolais, le président de la République a fait un constat sincère. Je l'applaudis même. Mais quels sont les actes de résolution ?
Oui.
Rien du tout. C'est là où toute l'opposition, nous sommes extrêmement dessus, mais ça ne nous empêchera pas d'être vigilants vis-à-vis du président de la République et de son gouvernement.
Merci beaucoup d'être surtout discipliné aussi, parce que ça va nous permettre comme ça d'évoluer avec les autres aspects du bilan de Joseph Kabila. François Elika, vous intervenez, vous, en tant qu'analyste politique. Quel bilan vous faites ? Vous avez suivi Christian Kambinga. Pour lui, déjà, sur le fonctionnement des institutions, pour lui, il y a une volonté. Ça, il l'a dit. Mais pour Jean-Claude Bemba, le président Kabila a fait un constat sincère qui, selon lui, il n'y a pas eu d'acte. Hein, pas de réalisation, en fait. Le président a ramené le peuple 12 mois derrière. L'état de la justice, c'est du déjà dit, rien n'a été fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau ?
Il est vrai que lorsqu'un peuple s'engage dans un processus électoral, hein, c'est toute une perspective d'espérance qui s'exprime. Il est important au niveau de gouvernant de veiller pour que cette perspective d'espérance ne s'effrite pas. Et pour ça, il faut, c'est vrai, poser des actes d'une grande visibilité. Au même moment, il faut reconnaître qu'on ne peut pas aujourd'hui, en moins d'une année, soutenir tout de suite que tout a été globalement négatif. Donc, c'est pas ça que j'ai pu comprendre chez l'honorable. Mais moi, je voudrais y aller par une question pratique.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, si on approche le magistrat qui a travaillé dans l'institution chez nous, on lui pose la question, dites-nous quelle est la différence que vous avez ressentie avant une année et aujourd'hui, vous pensez que la réponse va être tout de suite qu'il y a eu une amélioration substantielle. Je me dis que la réponse, à mon sens, me paraît négative. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes restés avec une même infrastructure, avec la même infrastructure judiciaire, l'état d'esprit est resté le même, les motivations en termes de rémunération, bon, au fait qu'on ne se fasse pas trop d'idées, qu'on ne pense pas que tout de suite, lorsque vous me payez $50 alors que j'ai recevé avant $30, ça signifie que vous avez créé chez moi un état d'esprit me prédisposant à devenir tout de suite un agent pour la démocratie. Non, ici, il est question que nous puissions formaliser toute une vision stratégique pour la République et nous dire, par rapport à ça, voici les objectifs que nous voulons réaliser. Et au regard de cette considération, je me dis que le constat qui a été fait par le chef de l'État démontre justement l'ampleur de tâches qui se trouvent devant lui et le responsabilise davantage en termes de quête des solutions, en termes de recherche de modalités plus pratiques, parce que si, c'est vrai, si nous disons qu'une année, ça ne suffit pas pour que nous puissions changer tout ce qui a été fait autant des décennies en termes négatifs, mais nous ne pouvons pas non plus dire qu'une année, ça ne suffit pas pour que des actes de grande visibilité puissent accroître l'espérance et finalement nous amener tous à considérer que les changements substantiels, en tout cas, les signes commencent à s'exprimer. Donc, c'est pourquoi je me dis, le chef de l'État a dit quelque chose de très important. Il a dit, nous devons mettre fin à l'ironie du sort. Donc, disons, à l'ironie de l'histoire. Quelle est notre histoire ? C'est que notre histoire a toujours été une histoire formalisée autour de deux types de républiques. Une république de ceux qui doivent et une république de ceux qui ne peuvent pas. Et vous allez voir que la logique de fonctionnement du pouvoir, c'est nous, en tout cas, dès l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à, en tout cas, maintenant, oui. C'est que c'est une logique bâtie autour à la fois de la violence, mais aussi de l'embourgeoisement des élites. Il va falloir que dans le Congrès, nous sentions des signes très forts, en tout cas dans, non seulement dans les discours, mais aussi dans les actes que posent à la fois le chef de l'État, le gouvernement et d'autres institutions, des signes qui démontrent que cette fois-ci, en tout cas, nous voulons reconfigurer les rapports de sorte que les citoyens soient au centre de toute préoccupation, aussi bien au niveau du discours qu'au niveau des actes qui sont posés.
Merci, François-Élika. Peut-être un mot avec Christian Kambinga sur cet aspect de la justice. Quand vous voyez, par exemple, les procès tels que ceux des journalistes Franck Nguiké, Serge Maïché, Mwamba Bapoua, le rapport Lutundula, tel qu'il a été, du moins, le comportement de la justice sur cet aspect, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien sûr, aussi en ramassant ce que vient de dire François-Élika sur les conditions de vie même des magistrats. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Juste un mot. Hein,
oui, moi je considère que c'est le constat qu'a fait le chef de l'État, quand il parle de l'amélioration des conditions de vie des magistrats, il a stigmatisé le comportement magistrat. Il a aussi soutenu qu'il faut le mettre dans les meilleures des conditions, des conditions pour ne pas être tenté, pour ne pas être victime de corruption. Je crois que c'est l'effort qui est fait. Je suis surpris de voir que l'honorable, même qui est député national, soutient qu'il n'y a rien qui est fait lorsque je sais qu'ils ont sur leur table les lois sur le statut magistral, les lois sur le Conseil supérieur de magistrature, tout est arsenal juridique. C'est pour arriver à mettre les magistrats dans le meilleur des conditions de travail.
Et ça traînait quand même, hein?
Ouais?
Ça traînait quand même.
C'est un effort qui est fait. Et je dis que venant d'un député, cela me surprend, parce que je pensais que là, il travaillait réellement, mais lui me dit aujourd'hui que non, eux, ils ne font rien au niveau du Parlement.
Voilà, donc pour vous, il y a des efforts qui sont fournis. Sans transition, on va y arriver, Jean-Claude Vouemba-Verret. Oui, allez-y, mais soyez vraiment bref, s'il vous plaît, Jean-Claude Vouemba.
Je crois que M. Kambinga est en train de vouloir entrer dans une polémique. Je n'ai jamais dit que le Parlement n'a jamais travaillé. La preuve en est que s'il y a une institution qui travaille réellement, c'est le Parlement. Mais, heureusement que M. Tumba Kambinga vient de vous en faire revenir à la raison que dès lors que les ministres nous ont déposé quand l'avant-projet sur la Cour suprême de la justice, il y a une semaine. Alors, toutes les lois qui devaient être chez nous pour que nous puissions réellement commencer une troisième république efficace au vu de la loi par rapport aux droits communs de toutes les Congolaises et les Congolais, nous venons à peine de le recevoir. Ouais. Donc, il ne faudrait pas dire que Jean-Claude Wemba n'a seulement dit ceci.
Oui.
Il y a un constat. Nous avons une justice corrompue jusqu'à la moelle épinière. Et le chef de l'État lui-même vient de se rendre compte de ça et de nous donner le diagnostic de cette justice.
Oui.
Lui-même, il ne croit pas. Parce qu'il a même cité l'exemple. Ça, c'est trop profond.
Oui.
C'est M. Kabila qui nous dit ceci. Il reçoit des milliers, des milliers, des milliers de correspondances des Congolais et des Congolais qui se traduisent par l'injustice de juges. Oui. Avez-vous vu, entendu, où on nous a annoncé un juge qu'on a porté plainte, un juge qui est en prison,
merci.
Ou des juges
On a compris ce que vous voulez dire. Merci Jean-Claude Bouemba sur la situation judiciaire. Sans transition, on passe au bilan sécuritaire de l'an 1 du mandat de Joseph Kabila. La RDC célèbre ce premier anniversaire sur fond des affrontements en Nord Kivu entre les FARDC et les troupes du général déchu Laurent Kunda. Après avoir salué le retour de la paix au nord Katanga et en Ituri, le président Joseph Kabila considère la pacification de l'est du pays comme une urgence. On écoute un autre extrait du président Joseph Kabila.
Sur les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo, seuls les territoires de Rutshuru et de Masisi, au nord Kivu, comptent encore en leur sein quelques foyers de tension. Dans ces deux territoires, un général déchu. Continue de semer la mort et la désolation parmi la population innocente, obligé de quitter champs et villages et de se réfugier dans des camps de déplacés, exposant femmes et enfants à l'insécurité et à la précarité. Cette situation est davantage compliquée par la présence dans les mêmes territoires des éléments résiduels de groupes armés incontrôlés, nationaux et étrangers. Les uns comme les autres se comportent en bourreaux de nos populations. Nos frères et sœurs du Nord et du Sud Kivu ont trop souffert. Victimes de viols, vols, assassinats et exactions diverses, nous devons impérativement et urgemment mettre fin à ces souffrances. Ce sera bientôt chose faite, quoi qu'il en coûte. Le gouvernement est déterminé à tout mettre en œuvre pour rétablir rapidement et durablement la paix et la sécurité dans les deux territoires, encore troublés du Nord Kivu. Je compte pour cela sur la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo dans des conditions extrêmement difficiles. Elles accomplissent honorablement leur mission.
Joseph Kabila, sous l'aspect sécuritaire, Christian Kambinga, vous êtes chargé de l'organisation au sein de l'AMP. Vous avez déjà suivi, même au début de cette émission, il y a eu beaucoup de réactions, évidemment, on ne peut pas les lire toutes, mais parmi ces réactions, il y a des auditeurs, tels que Dieudonné Kumunyeli. Il y a de ceux qui sont évidemment réservés, qui demandent à ce qu'on ne soit pas trop sévère envers Joseph Kabila après une année, mais qui demandent quand même que qu'il y ait beaucoup de réalisations, notamment sur le plan sécuritaire. C'est le cas de Laurent Nkunda. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire quand on sait que lors de la campagne présidentielle, Joseph Kabila avait promis la paix aux populations de l'Est. Une année après, c'est la guerre avec Nkunda et puis des FDLR, toujours présents et actifs. Conséquence, environ 1 million de déplacés au Nord Kivu. Comment vous pouvez interpréter ça, Christian Kambinga?
D'abord, c'est pas Joseph Kabila qui a commencé à critiquer les sécurités. C'est justement ceux qui pensent que Joseph Kabila, ceux qui ont dans leur chemin d'empêcher Kabila de réaliser les progrès du développement dans ce pays qui sont à la base de l'insécurité.
Mais c'est lui le président de la République.
Oui, c'est vous. Bon, j'ai dit que c'est le président de la République, ouais. Mais c'est pas lui qui crée l'insécurité.
C'est lui qui doit y mettre fin.
Oui, mais il doit y mettre fin. C'est pour ça qu'il a dit qu'il utilise tous les moyens, et les moyens militaires et la diplomatie, les négociations, pourquoi pas, parce que toutes les guerres, comme il a dit, finissent toujours autour d'une table. Donc, les efforts sont faits au niveau du gouvernement pour que, sur le plan militaire, nous puissions régler ces problèmes. S'il les faut, nous allons...
Voilà.
Oui, je disais que, okay. Au niveau du gouvernement, vous le savez très bien, que les forces combattantes de la République sont sur le champ de bataille pour arriver à mettre fin à cette rébellion d'un Nkunda. Je crois que c'est ce que nous devons attendre du gouvernement. Et ce que nous regrettons, c'est que le peu de moyens dont nous disposons, qui pouvaient servir à autre chose, s'est investi aujourd'hui dans l'achat des armes et tout ça pour mettre fin à la guerre.
Et vous continuez à croire aussi que la guerre est la seule solution à cet instant?
Je ne crois pas que c'était la voie absolue pour régler les problèmes qui se posent au niveau de l'Est. Mais il ne faudra pas que nous fassions l'objet de chantage, que nous paraissions comme un pays faible, que n'importe quel Congolais qui se réveille les mains crée l'insécurité de manière impunie. Je crois que ce que le gouvernement a fait, il utilise tous les moyens militaires pour le faire, et sur le plan diplomatique, vous suivez toutes les négociations qui se font sur le plan international pour arriver à régler cette crise. Donc il y a cette volonté du président de la République de mettre fin à la guerre, parce que c'est un handicap sérieux pour le développement du pays.
Merci. Alors, Jean-Claude Wemba, vous êtes député national de l'opposition. Christian Kambinga dit que le président Kabila a la ferme volonté de mettre fin à la guerre, mais elle est là, ça c'est un fait. Qu'est-ce que vous, comment vous réagissez?
Vous savez, ce que est en train de dire mon frère Christian Kambinga me rappelle à une chanson de Jacques Brel.
Quelle chanson? On ne la connaît pas, les auditeurs peut-être la
connaissent. Tout simplement parce que la bonne volonté y est là. Mais la réalisation, c'est ce que nous attendons des actes concrets. Il ne faudrait pas oublier, vous, d'ailleurs, vous l'avez si très bien répliqué à M. Kabila, le slogan de campagne du président, du candidat Kabila, était « Élisez-moi, je mettrai fin à l'insécurité, que ce soit à l'Est, que ce soit dans l'insécurité urbaine, citadine et même rurale ».
Mais c'est quand même ce qu'il fait maintenant en donnant des moyens à l'armée sur le terrain.
Nous arrivons, ce qui est grave. Là, vous voulez ouvrir encore une autre rubrique. J'ai lu le compte de 2007, je n'ai pas vu là où il y avait l'argent encaissé par rapport à la guerre, ni 2008. Donc, le Parlement qui légifère pour la loi ne sait pas combien coûte cette guerre. Et plus grave encore, quand vous voyez le ministre des Affaires étrangères, Moussa Namoussi, aller signer un accord avec le Rwandais en leur disant qu'à partir du 1er décembre, ils vont commencer à tout faire pour chasser les interroamis et les FDR, nous nous posons les questions. L'Assemblée nationale, le Parlement dont nous sommes issus, n'ont donné aucun pouvoir, ni au président de la République avant de sortir l'armée, ni au Premier ministre, nous n'avons donné aucun accord.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, le gouvernement devait passer d'abord par le Parlement.
Il y a c'est ce qu'on appelle une gestion unilatérale de travailler dans ce pays qui n'est pas bien. C'est pour cela que nous disons, en ce qui concerne l'insécurité, là vous venez seulement de citer Kounda Batoare. Je mets Kounda Batoare à côté, je terminerai par lui.
Oui.
Il y a à Bororo, il y a les Ougandais qui rentrent à Bororo. Il y a dans les deux Kasaï, il y a eu au moins plus de 100 morts. Il y a même une commission parlementaire qui est allée là-bas. Il y a à Boutembo. Ne citons même pas l'insécurité citoyenne des petits gens. Mais maintenant, malheureusement, ça n'engage plus les petits gens.
Bon, vous avez dit qu'il n'y a pas que l'Est, il y a aussi tout le reste.
Mais bien sûr, vous avez appris, il y a deux députés, Jacques Longuana, ainsi que l'honorable Matalinga. Mais je veux aller plus loin. Même le chauffeur d'Olivier Kamitatou, hier, a essuyé des tirs sur l'avenue Mbeteke. Il y a même un grand homme d'affaires que je ne citerai pas son nom, en a suivi pareil.
Et bien, vous voulez dire,
nous voulons dire que les policiers, les militaires, les agents de sécurité de la NER, de la DGM, ne se retrouvent pas à travers leurs soldes. Or, dès lors que ces gens-là ne vont pas se retrouver, ils vont se retourner vers la cité. Et pour terminer, pour Kounda Batoare, vous savez, Kounda Batoare ne commence pas d'aujourd'hui. Le président Kabila vient d'hériter le dossier Kounda Batoare à l'époque où ils étaient ensemble dans 1+4. Le président Kabila nous avait promis de faire revenir le général dissident dans le rang. Mais curieusement, il y a quelques mois, Kounda Batoare était avec le général John Lombi à Kigali pour négocier. Pire encore, le facilitateur, c'était James Kabarè. Alors, c'est pour cela, pour nous, dans l'opposition, nous disons, il n'y a que deux façons pour terminer avec Kounda Batoare. La façon la plus logique et qui nous coûtera moins cher en vies humaines, en dégâts, des forêts et tout conséquences sur la population, c'est de négocier avec Kounda.
Merci.
Il n'est pas insultant de négocier avec un réfracteur ou de deux, réellement
merci,
mettre le moyen pour aller mettre fin à l'histoire de Kounda Batoare.
Merci Jean-Claude.
Si vous a proposé l'arsenal militaire, savent très bien que les Congolais ne sont pas habitués à cet arsenal.
Merci.
Donc pour nous, c'est de la distraction.
Merci Jean-Claude Vouemba. François Elika, faut-il négocier quand on sait que au niveau d'Addis Abeba, hein, la réunion qui a mis ensemble les États-Unis, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ont décidé de renforcer les forces sécuritaires de la RDC justement à propos de la situation à l'Est. Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
En fait, il est clair, hein, dès l'instant où la République démocratique du Congo a signé l'accord de Nairobi avec le Rwanda, l'option qui a été arrêtée, c'est l'option de la militarisation. Donc, il faut, pour neutraliser ces différents groupes à l'Est, il faut absolument recourir à la voie militaire. Donc, à ce niveau-là, moi, je n'ai plus d'opinion à émettre.
Oui.
Mais vous vous rappelez seulement que la question de l'insécurité, il faut la voir sous deux paliers. Il y a l'insécurité structurelle, donc ces phénomènes que nous voyons à travers la ville, ou des éléments incontrôlés, ou encore des gens victimes de l'angoisse ou d'un virus de la faim, se servent de leurs armes pour régler des comptes et ainsi accéder à des ressources.
Mais comment vous appréciez-vous ces un an de Joseph Kabila sur le plan sécuritaire?
Tout à fait, je voudrais bien donner ces deux aspects.
Okay.
Et puis il y a l'insécurité à l'Est qui a un fondement stratégique. De sorte que résoudre un tel aspect, résoudre une telle insécurité, nécessite de la part du gouvernement une vision sécuritaire appropriée. Or, l'impression que nous avons eue, c'est que cette vision s'est formalisée difficilement. Le chef de l'État va à Goma, il dit « Désormais, les carottes sont cuites, il faut absolument
le bâton. »
Entre-temps, il y a des pressions sur le plan, au niveau de la communauté internationale, pour lui dire « Non, écoutez, nous proposons, on a même proposé l'exil en Kunda. » Ce qui, au fait, est en contradiction de la clause constitutionnelle qui veut que chaque citoyen, aucun citoyen ne soit forcé à l'exil. Donc, finalement, je
pense que... c'est pas le gouvernement qui l'a
Non, là, c'est pas le gouvernement. C'est ça que je voudrais démontrer, l'aspect stratégique. Donc, je me dis que la question sécuritaire est une question, à mon sens, non seulement sensible, mais aussi complexe, de sorte que la recherche d'une solution requiert au niveau du gouvernement que ce gouvernement fasse pression ou encore une action diplomatique importante pour qu'on arrive d'abord à obtenir la levée de l'embargo militaire. Ça, c'est très important.
Oui.
On ne peut pas restructurer une armée dès l'instant où il est empêché à ce pays la possibilité de s'approvisionner en termes d'armes. Ça, c'est un aspect qui me paraît très important.
Je n'ai pas d'accord avec toi. Bon, allez-y, mais c'est vous qui avez la parole. Allez-y, François Hélicain.
Quoi, vous voulez dire que l'embargo militaire...
Le représentant des Nations Unies au Congo,
oui.
William Schur, il y a 15 jours, il y a 20 jours, l'a déclaré ouvertement qu'il n'y a jamais d'embargo pour le Congo depuis l'avènement du président Kabila au pouvoir après les élections.
Voilà. Non. J'ai bien informé ici que la République démocratique du Congo a vu les armes. En tout cas, c'est une information qui est vraie.
Oui.
Les armes que nous avons achetées à partir de la Tchéquie, ont été bloqués au niveau de l'Union européenne parce que il est établi que dans des zones de conflit, on doit empêcher que l'une des parties puisse accéder à un arsenal militaire.
Donc
l'idée ici, honorable, c'est de savoir que en matière d'armement, les conventions tacites existent. Et nous avons justement été victimes de ces conventions tacites parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de nous approvisionner. Donc ça, c'est un effet qui est très important par rapport à Kunda qui, lui, s'approvisionne dans le marché informel avec des réseaux. Vous avez sur Internet tous les rapports de GRIP, les différents instituts sur la sécurité, notamment les Suédois, qui vous ont fourni, qui fournissent très clairement les différents types d'armes que Kunda sait acquérir à partir des réseaux pakistanais et même chinois.
Mmh.
Donc ceci pour démontrer que nous devons, en tout cas sur la question sécuritaire, savoir qu'il est difficile d'apprécier un tel bilan, en sachant que n'importe qui aurait eu difficile à résoudre un tel problème quand on sait que la ramification fait intervenir des éléments qui, au fait, vont au-delà de la territorialité, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo.
Oui, on va... Christian Kabenga, vous tenez à intervenir là-dessus, même si vous avez déjà abordé la question. Est-ce qu'il faut la pression, comme propose François Elika, il faut la pression sur le plan diplomatique, parce qu'on a suivi, le président Kabila a dit qu'il faut que l'armée congolaise, donc la RDC, ait les armes que possèdent les meilleures armées au monde.
Oui, vous savez, au-delà des armées, plutôt des armes qu'on peut avoir, c'est que le problème, problème de l'État avec le Congo dépasse finalement la territorialité. Les problèmes, est-ce que nous faisons la guerre contre un Kunda ou contre deux mains noires? Comprenez? Je prends particulièrement le Rwanda, je me demande, est-ce que nous faisons la guerre contre un Kunda ou contre le Rwanda? Moi, je constate que c'est là où je trouve qu'il y a une duplicité de la communauté internationale, qui sait très bien que un Kunda n'existerait pas si le Rwanda n'était pas derrière.
C'est vous qui...
Non, je le sais, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La réalité, c'est là.
C'est votre réalité à vous.
Oui, la réalité que nous connaissons tous, le Rwanda n'a jamais accepté qu'il soutienne une rébellion quelconque, jusqu'au moment où on le met à nu. Avec l'air, c'est la même chose. Tous les problèmes que Kunda pose, plaide pour la cause rwandaise, c'est la chanson que le gouvernement rwandais fait passer à travers la communauté internationale. Considère que les Hutus qui sont au Congo, ce seront tous des génocidaires. Et je considère que tant que la communauté internationale ne ferait pas une pression sur le gouvernement congolais, comme ils le font partout il y a le gouvernement rwandais, pour que le gouvernement rwandais s'assoie aussi au sud d'État.
Donc vous pensez qu'il n'y aura pas de sécurité?
Il n'y aura pas de sécurité parce qu'il n'y a pas de sous-rwandais. Les Hutus qui sont au Congo, ils ne sont pas tous des génocidaires. Il est injuste de considérer que le Rwanda peut aujourd'hui impunément organiser des escadrons de la mort au Congo avec quelques Congolais comme Nkunda et que vous retrouvez autour d'une table finalement pour rigoler. Toutes ces réunions qui se font à Nairobi, à Addis Abeba, c'est pour rigoler. Le président Kabila s'est retrouvé avec le président Museveni, je crois, en Tanzanie. Quelques jours après, qu'est-ce que comment s'appelle-t-il?
Voilà, on a compris votre.
Oui. Donc, ce sont les gens qui ne respectent pas leurs engagements.
Donc, vous avez dit qu'il faut la pression sur.
Il faut la pression sur le Rwanda. Tout le reste, c'est un amusement, c'est la distraction, tout simplement.
Merci beaucoup. Le volet économique et social du bilan de l'an 1 de Joseph Kabila comme président élu de la RDC, c'est tout de suite. Mais je vous rappelle que nous recevons dans cette émission Jean-Claude Vomba, député national de l'opposition, membre du groupe parlementaire Ordre des démocrates républicains, Christian Kambinga, chargé de l'organisation au sein de l'AMP, et François Elika, analyste politique et assistant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Sur le plan économique, Joseph Kabila se félicite de la stabilisation des facteurs jouant sur l'économie. Il justifie aussi les accords avec la Chine pour la réalisation des 5 chantiers. On écoute encore une fois le président Kabila dans cet extrait de son discours.
Notre action au cours de l'année 2007 a aussi porté sur l'amélioration de l'état des infrastructures de base dans notre pays. Le gouvernement a ainsi affecté d'importantes ressources à l'amélioration de la desserte en eau à Kinshasa, comme dans plusieurs villes et grands centres de l'intérieur du pays. En ce qui concerne l'électricité, une réflexion profonde a été entamée pour élaborer la meilleure stratégie d'action en vue de résorber le déficit en fourniture d'énergie électrique, de juguler les coupures intempestives concernant les infrastructures. En attendant les grands chantiers, d'importants travaux de sauvegarde et de réhabilitation ont été entrepris sur la voirie primaire de certaines villes, sur plusieurs tronçons routiers d'importance nationale et régionale, de la santé, et ce, de manière particulière, l'inauguration de l'hôpital Marquis Gamba Mutombo à Massina et de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise à Ndjili. Il s'agit de notre compatriote Mutombo Dikembe, dont nous recommandons l'exemple à d'autres membres de la diaspora congolaise pour son patriotisme et sa générosité. L'accent pendant l'année qui s'achève a été mis sur l'évaluation de l'application jusque-là du code et du règlement minier, ainsi que des divers contrats miniers signés soit par l'État, soit par les entreprises publiques. Mais notre travail, nous Congolaises et Congolais, ne fait que commencer, car même si l'appui de nos partenaires n'est ni à négliger ni à récuser, en dernier ressort, c'est à nous et à nous seuls qui revient de construire le Congo. Unis comme un seul homme, nous changerons notre pays et mettrons fin à la pauvreté.
Jean-Claude Vomba, je l'ai déjà dit, vous êtes député national, membre de l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la réalisation jusque-là des 5 chantiers annoncés par le président Kabila? Il s'agit notamment des infrastructures, l'énergie, l'eau, l'éducation et l'emploi.
Il ne faudrait pas oublier que je suis élu de Kastangoulou dans le Bas-Congo.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire tout simplement, il faudrait que dans mon circonscription électorale, sache que quand même que Jean-Claude Vomba parle de Kastangoulou. En ce qui concerne les 5 chantiers, vous avez pu vous rendre compte comme moi que je les ai fait. Le président de la République nous cite 2 exemples qui ont commencé il y a 3 ans.
L'hôpital Marie Dienga de Mutombo Dikembe, ainsi que l'hôpital chinois.
Non, soyons sérieux.
Pour vous, vous n'allez pas mettre sur le
bilan. Le président de la République nous a dit à partir du 1er décembre, nous allons commencer à voir la véracité, la réalisation des 5 chantiers. C'est le président de la République qui l'a dit. C'est pas Jean-Claude Vomba. Mais aujourd'hui, nous sommes au cadre, nous n'avons jamais vu une société là où on se retrouve à embaucher les gens pour une coopération sino-congolaise. Non, nous devons être sérieux. Sur le problème de l'eau, peut-être que le président de la République n'a pas tous les rapports. Vous savez, ce n'est pas facile. L'eau est un perle dans ce pays. Soyons sérieux. Ils ont souffert des amibes et toutes ces infections à cause de l'eau. L'électricité, n'en parlons pas. Hein? L'électricité est vendue maintenant aux particuliers, ce qui est grave. Alors, tout cela, nous nous posons les questions. Quand le président de la République nous fait comprendre le cadre de vie. Mais non, sur les infrastructures,
oui.
Nous le voulons bien qu'il nous soutienne. Qu'il nous soutienne un exemple. Quand le président de la République nous dit que dans le code minier et tout,
oui.
Je suis au Parlement de la République. M. Kabinga, nous n'avons pas encore le rapport ministériel du code minier.
Oui.
Quand vous faites allusion au rapport Lutundula,
concluez maintenant, concluez vers la fin de l'émission. Concluez, s'il vous plaît.
Quand vous faites référence au rapport Lutundula, à toutes ces histoires, nous nous posons des questions. Je crois que le président a lu un très beau texte.
Oui.
Son discours a été parfait. Mais la concrétisation, la réalisation, ainsi que son passage de 2006 à ce jour est d'une négation grave.
Qu'est-ce que vous répondez à la question, Kabinga?
Au niveau de macroéconomie, c'est l'économiste.
Oui, mais
le président nous a fait allusion.
Ok, d'accord. Non, concluez.
Le président de la République nous a fait comprendre que, au niveau macroéconomique, tout s'est passé bien. Le dollar est en train de reculer par rapport à l'euro. Okay. Et qu'un sac de riz de 50 kilos tout coûtait 25 dollars,
aujourd'hui, on a l'occasion à
50 dollars.
Voilà.
Alors, c'est pour cela que nous disons, il ne faudrait pas vous méfier de ce dollar qui descend.
Voilà.
Et quand ça va les grimper, c'est à ce moment-là la véritable faciès du pro-congolais
qui serait à nu. Donnez la chance à Christian Kamina de répondre.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt mon père, l'honorable Mpemba. Je sais que m'a rappelé à l'honorable Mpemba que le président de la République n'a pas dit que tout a été fait. Il a dit qu'il y a un début de travaux, des poiriers, qui commencent déjà.
Et il demande déjà que les
deux. Vous n'allez pas me dire que lorsque vous suivez à la télévision ce qui se passe dans les Katanga, en Mbujimayi, à l'Équateur, ce que les gouverneurs des provinces sont en train de réaliser. C'est en dehors de la République démocratique du Congo.
Donc pour vous, ça rentre dans les 500
000. Ça va de soi, parce que toutes ces provinces sont où ? Sont dans la République. Donc, le gouverneur des provinces sont en train d'appliquer le programme du gouvernement. Il n'y a pas un autre endroit où vous pouvez palper la matérialisation du chantier du chef de l'État que à travers nos différentes provinces. Vous n'allez pas me dire que ce que le gouverneur des provinces sont en train de faire, ça fera partie du chantier du chef de l'État. À quel endroit, dans quel espace allez-vous apprécier la réalisation du chantier du chef de l'État, si ce n'est que dans les différentes provinces? Vous n'allez pas me dire que vous n'assistez pas aux travaux qui sont en train d'être effectués aujourd'hui dans la ville de Kinshasa sur la voirie. Vous n'allez pas me dire ça. Ce n'est pas complètement terminé, mais nous réalisons, nous voyons les engins à travers la ville, il y a un début de travaux.
Citez-moi bien.
Je crois qu'il faut
porter.
Oui. Bon, voilà.
Moi, j'estime que le président
n'a pas
dit que tout a été fait, mais nous constatons, nous voyons nous-mêmes, même s'il ne l'avait pas dit, tout le monde réalise que chaque gouverneur est en train de faire.
Vous l'avez dit, donc ça rentre dans les 500 000 chefs de l'État. On va terminer avec vous, François Elika. Il n'y a qu'une minute. On va revenir là-dessus.
J'aimerais que l'argumentaire de ministre honoraire soit interprété dans le sens d'une banalisation en fait, de la thématique de cette
chantier.
Oui. Parce qu'en fait, avec cet exemple, je vais dire. Bon, si je suis chez moi, j'arrange ma maison, ça fait partie de... Non, là, ça risque, effectivement. Oui, mais parce que le danger, c'est quoi? Le danger, en fait, c'est celui de faire oublier à la population que les cinq chantiers, c'est une thématique, c'est vrai, mais c'est un programme.
Oui.
Et nous voulons qu'à ce programme, on donne un contenu vrai. Et le chef de l'État lui-même reconnaît que ces chantiers n'ont pas encore commencé. Il le dit dans son discours, il dit en attendant les grands travaux. Donc, tout ce qui a été fait de façon minimale, ça ne s'inscrit pas dans une vision programmatique de sorte que...
Si,
je vous en prie. C'est vrai que
concluer,
et le global.
Oui.
Mais ici, vous avez le premier des citoyens qui a pris des engagements et de qui on attend qu'il donne un contenu opératoire.
On va s'arrêter là. On va s'arrêter là.
Il va falloir qu'à ce niveau, on fasse très attention parce qu'on risque de ne pas bien comprendre.
Merci François et Lucas. De toute façon, nous promettons aux auditeurs une autre émission là-dessus sur les perspectives. C'est par ici que nous mettons fin à ce dialogue entre Congolais. Guy Manzangou était à la technique. Kevin Kouté à la préparation et Nadine Foula à la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivis. Thank you.